l'orgueil, bon sang. Ah, bon sang. C'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais.
Je savais pas que l'amour, c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner.
19h-20h.
Heureusement que j'ai des nerfs, sinon... Vous imaginez, si je suis sur scène sans nerfs du tout, alors vous direz, oh, qu'elle est moche.
Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle.
Mais moi aussi, je vais leur montrer qui c'est Raoul à mes camarades Carole Beffa et Laurent De Wilde, donc deux musiciens absolument extraordinaires, qui vous accompagnent pour cette spéciale George Gershwin, 1898. Donc, il naît à Brooklyn, 1937. Malheureusement, il a un cancer au cerveau. Et après de multiples malaises, il va s'éteindre à Los Angeles. Gershwin, c'est très simple. Quelques années dans la rue, quelques années comme pianiste dans les cinémas, quelques années dans des missions d'édition, et immédiatement, pratiquement, un succès phénoménal. Il a tapé dans tous les domaines, Rhapsody, bien évidemment, Rhapsody in Blue, Porgy and Bess, Summertime, An America in Paris, j'en passe et des meilleurs, I Got Rhythm, et beaucoup d'autres choses. Je vais vous parler d'un succès rapide. Il a beaucoup travaillé, il a beaucoup joué, il a beaucoup composé, mais son premier succès, il date de 1919, il s'agit d'une composition qui s'appelle Swanee, qui a été repris par le célèbre chanteur, donc Al Johnson, et du jour au lendemain, il est passé d'inconnu à célèbre.
Swanee, you're calling me. Swanee, how I love you, how I love you, my dear old Swanee. I'd give the world to be among the folks in D-I-X-I, even though my mammy's waiting for me, praying for me down by the Swanee. The folks up north won't see me no more when I get to that Swanee shore.
Famille de quatre enfants, enfant prodige, il apprend le piano dans la rue, son premier professeur dit immédiatement qu'il sera un génie, et le grand avantage des Roaring Twenties, et nous sommes aux États-Unis car il y a une volonté de créer une musique américaine, c'est qu'il fait des chansons, il va faire évidemment des comédies musicales, on en parlera tout à l'heure, mais il fait aussi de la musique extraordinairement sérieuse. Je suis avec Carole et avec Laurent Deville. Mes camarades, bonjour. Pour vous, si on dit Gershwin, vous pensez quoi, Laurent?
Instinctivement, Porgy and Bess, comme ça.
Mais pour quelle raison?
Grand opéra, repris 30 millions de fois, que des thèmes connus, un accueil très étrange, très froid. Ça a été un four hein, quand c'est sorti, Porgy and Bess.
Ce qui est très rare, hein,
oui,
dans sa carrière.
Exactement. Descendu en flamme par Duke Ellington, qui en fait ne critiquait pas la musique, mais le contenu du livret, et qui disait qu'aucun Africain-Américain ne se retrouverait dans cette comédie ridicule.
Voilà.
Et ça a un petit peu scellé le sort de cette œuvre magnifique, qui après a été reprise par un très grand nombre.
25 000 fois. Regardez.
Ah ouais.
Il y a 25 000 versions de Summertime qui circulent sur évidemment les plateformes maintenant, ce qui laisse Carole Beffa songeur. Si je vous dis Gershwin en un mot, vous pensez à quoi?
Oh, j'aurais pensé probablement à la même œuvre. C'est vrai que c'est incroyable d'imaginer qu'une œuvre ait tant de tubes, incorportant de tubes, et puis être un four lors de sa création.
Nous sommes en 1924, donc il a créé beaucoup de chansons, il commence à écrire des musicals, il commence à collaborer avec son frère, ils sont quatre frères et sœurs, Ira, pour qui le piano dans la famille était destiné au départ, mais qui va se concentrer sur les paroles des chansons, et là, c'est évidemment Leonard Bernstein, que vous pouvez encore voir à l'écran actuellement dans le film Maestro, qui dirige le Philharmonique de Los Angeles, car nous sommes en 1982, mais Rhapsody in Blue, dont vous voyez, il passe de Swanee à Rhapsody in Blue en à peine 4 ans, créé en 1924, et alors là, c'est la révolution des révolutions.
Thank you.
Voilà, auparavant, pour se faire la main, il avait travaillé dans des maisons d'édition, Remick, puis T.B. Armsco, donc, qui lui a laissé passer les compositions et pas simplement un métier, donc, de pianiste, je le disais, soigné, bien évidemment. Il est parti pour Londres en 1923, donc, pour Rainbow, et visiter aussi Paris, au retour à New York. Il a beaucoup voyagé en 39 ans de vie. Il va faire des concerts avec une mezzo-soprano qui s'appelle Eva Gauthier dans le Alléon Hall, donc à l'automne 23, où sera créé justement Rhapsody. Voici son frère, Ira, l'aîné, qui raconte au fond ce qui caractérisait le petit George.
Mon frère ressemblait beaucoup à sa musique, vibrante, dynamique et honnête. Il était plein de vie et passait des journées très remplies, même si la majeure partie du temps était consacrée au piano et à sa musique. C'était une source permanente de plaisir. Je suis même étonné qu'il ait pu trouver le temps de s'adonner à tant d'autres activités. Il était un très bon peintre, un bon golfeur, un collectionneur d'art avisé, un excellent photographe, un merveilleux danseur qui n'hésitait pas, lors de répétitions d'un spectacle, à faire des claquettes.
Voilà, il a laissé effectivement une grande collection de tableaux. Il a beaucoup peint, il s'est même beaucoup peint lui-même. On appelle ça les autoportraits, dis-je. Et le voici dans une autre version donc de Rhapsody in Blue qu'a choisi Carole pour l'ensemble. C'est de l'ensemble Or Not Brass qui joue Rhapsody in Blue. Je parlerai évidemment de gaieté pour Rhapsody in Blue, de complexité aussi, mais évidemment avec Carole Beffa, tout ça va prendre une autre intensité. Nous sommes dans le ruissellement rythmique, mon cher Carole, qui vous sied tant. Car il adorait Debussy, Ravel et Stravinsky.
Tout à fait. Et Ravel le lui rendait bien.
Bien fait pour te bourrer, parce que...
Non, il y a cette anecdote assez célèbre. Si non è vero e ben trovato, c'est-à-dire qu'on peut se demander s'il n'est pas un peu apocryphe, mais semble-t-il, rencontrant Ravel lors de la tournée américaine de Ravel de 28, je crois que c'est en mars,
il lui demande... Il avait invité chez lui pour son anniversaire un immeuble de 5 étages, donc il avait fait fortune en 10 minutes. Je parle de Gershwin.
Il demande à Ravel si Ravel ne peut pas lui donner des cours de composition, à quoi Ravel a répondu, mais à quoi ça servirait? Il vaut beaucoup mieux que vous soyez un Gershwin de premier ordre qu'un Ravel de second ordre. Quoi qu'il en soit, ce qui est incroyable avec cette musique, c'est qu'en réalité, comme elle a été écrite en un rien de temps, parce que...
Cinq semaines.
Voilà, la musique est effectivement de Gershwin, ça ne fait aucun doute. En revanche, les arrangements, l'orchestration, dans différentes versions, c'est une orchestration un peu gigogne, on les doit plutôt à Ferdé Groffé, compositeur un peu oublié, mais qui restera... dans l'histoire de la musique au moins pour avoir fait cela. Et ici, donc dans cette version par le label Clart et l'ensemble Or Not Brass, on a quand même l'essence de cette musique qui n'a pas besoin forcément de son revêtement original ou de ses déclinaisons successives pour être appréciée. C'est une musique qui a suffisamment d'assises rythmiques, de couleurs harmoniques, d'articulations entre genres.
Ruissellement, disais-je.
Et ça ruisselle, surtout à l'orchestre, mais également dans cette version plutôt chambriste. Donc, elle n'a pas besoin d'avoir tel ou tel revêtement orchestral pour qu'on puisse la reconnaître. C'est une musique, encore une fois, qui est faite de tubes en permanence. Tout le monde connaît Rhapsody in Blue, même quand on ne sait pas qu'on le connaît.
C'est pour ça que vous avez choisi le Quatuor Calypso, c'est le pianiste Éric Lesage. Je vous promets que Laurent Deville arrive, nous ne l'avons pas rangé dans un réfrigérateur dans un coin. Il est là et il boude impatient. C'est une autre version de Rhapsody in Blue, de manière à montrer à quel point cette musique est un arc-en-ciel différent. Tranquillité, mais j'ai le sentiment, je n'y étais pas hein, à New York dans les années 20, mais de l'expression Roaring Twenties, c'est-à-dire que, mon cher Carole, on entend tout en fait, c'est-à-dire on entend à la fois les sociétés de musique savantes, où il y avait évidemment notre précédent thème, ou l'un de nos précédents thèmes, qui était Bernard Herrmann, et en même temps les boîtes de nuit, donc forcément la musique avec les trompettes, les saxophones, etc. Bref, tout se mélange dans un esprit rapide.
Ouais, dans un esprit rapide, il y a des passages qui sont plutôt lents, contemplatifs, assez langoureux même, toujours très sensuels. Mais vous avez raison, on a une certaine
marque d'époque,
une marque d'époque qui est liée au punch des cuivres, là où le piano est capable de tout faire. Il peut être l'instrument percussif par excellence, mais aussi celui de la mélodie particulièrement sinueuse, sirupeuse parfois. Il y a effectivement de tout dans cette musique. C'est d'ailleurs, à mon avis, à tort, un reproche qu'on a fait à Gershwin, c'est d'être une espèce de ratatouille d'influence, de style, et de ne pas avoir d'identité personnelle. C'est absurde. Je pense que si
moi, j'adore la ratatouille.
Et moi aussi. Pour les amateurs de bonne chair comme vous et moi, on est évidemment obligé d'admettre que
cette montée à la trompette qui est devenue célébrissime
à la clarinette, cette chose incroyable qui est cet immense glissando dont on prétend que lors de la première c'était plutôt une coquetterie de la part du soliste, ce n'était pas une chose prévue par le compositeur.
Nous l'écoutons et nous allons aborder avec Laurent, évidemment, un gigantesque pianiste qui a joué avec Miles Davis et qui après a fait une carrière monumentale. Il est passé du bebop, il a tout fait, très simplement. Et d'ailleurs, il est encore vivant, donc on pense à lui. Nous pensons aussi à notre camarade Marc Lambron, qui a perdu sa maman et qui nous manque beaucoup cette semaine. Laurent, vous avez choisi Summertime, donc évidemment... c'était de George Gershwin. C'est une version qui est donnée par Herbie en 1998. Et vous allez tout nous dire de votre amour pour Herbie et Gershwin.
Summertime. And the living is easy. Fish are jumping, and the carving is high. Your daddy's rich, and your mama's good looking. So, hush, little baby, don't you cry. Up singing, spread your wings and take to the sky.
Voilà une interprétation phénoménale avec des petits camarades de Laurent, donc que vous allez nous citer, mon cher Laurent. Et c'est Joni Mitchell, la grande chanteuse. Alors on ne sait plus de quoi elle chante, enfin ce qu'elle chante exactement, puisqu'elle a fait des disques de folk sublimes, des disques avec des musiciens de jazz absolument extraordinaires. Et c'est un personnage des années 70-80 de la musique américaine, et elle est encore vivante. Parlons un peu de ce Herbie qui arrive dans le monde de George.
Ah. J'ai choisi cette piste en fait pour montrer combien les évolutions d'un répertoire peuvent être tortueuses, parce que on parlait des Roaring Twenties, on n'a pas beaucoup parlé de Tin Pan Alley, ouais, qui était en fait cette espèce de laboratoire musical de ce genre qui n'existait pas auparavant. Alors, qui était la comédie musicale.
Ouais, c'est ça.
La comédie musicale, c'est quand même un mélange qui a été alimenté par un bon nombre de musiciens comparables à la famille Gershwin, c'est-à-dire juifs immigrés ou bien de Russie, Kern, ou bien de, voilà, Irving Berlin, ou bien d'Europe centrale ou bien de Russie.
Franz Lehár.
Voilà, exactement, et qui
il a fait de m'inviter.
Qui en fait sont nourris du répertoire quasiment contemporain de la musique classique. Ils connaissent Berg, ils connaissent Stravinsky, ils connaissent Mahler, ils connaissent les générations Strauss, et il y a également une sorte de tradition d'opérette. C'est drôle parce que je faisais des recherches sur le jazz et les débuts du cinéma, et le premier parlant d'attrait de 1927, même si c'est pas exactement le film The Jazz Singer qui est le vrai premier parlant officiel. Et j'ai fait la liste des comédies musicales qui, cette année-là, se produisaient à Broadway. Mm-hmm. Il y en avait 124. C'était un genre musical complètement nouveau.
C'est ce que lui a dit son éditeur, d'ailleurs. Le oui, premier éditeur pour lequel il travaille, il veut absolument composer. Il est compositeur, on en a plein les mâles. Jouer du piano, vous jouez très bien, ça suffira largement. Et c'est ce qui l'a poussé, d'ailleurs, à changer d'éditeur pour essayer de sortir. Mais vous n'avez pas répondu à ma question initiale. Nous sommes quand même avec Gershwin dans les années 20, dans les années 30, et là c'est un monstre des années 70-80, Herbie et sa bande qui se colle.
Justement, ce répertoire qui va être de comédie musicale, qui va donc être mais vraiment absorbé par cette énergie créative des années 20, qui est magnifique, hein. C'est l'époque, quand on y réfléchit, c'est l'époque qui commence à jouir de tous les paradigmes de notre modernité d'aujourd'hui: le moteur explosion, l'aéroplane, le téléphone, la radio, l'enregistrement, tout ça, ça commence à devenir accessible à cette époque.
Donc et le cinéma.
Et le cinéma, bien entendu, que j'oubliais. Et donc, c'est une espèce d'orgie culturelle.
Babylone.
Exactement. Assez bien rendu dans le film de Damien Chazelle. Et ça, donc, une grande partie de cette énergie musicale va être absorbée par le cinéma, justement. Mm-hmm. Et puis, la comédie musicale va continuer et va connaître une deuxième vie lorsque, à partir des années 40, des musiciens tels que Charlie Parker, Dizzy Gillespie, reprennent en fait un répertoire qu'ils considéraient leur appartenir, que des gens comme Gershwin allaient écouter au Cotton Club, les orchestres de Fletcher Anderson, de Duke Ellington, pour piquer des bonnes idées, et puis après ça, réorchestrer à la façon comédie musicale, Tin Pan Alley. Et donc, cette génération des boppers, c'est les inventeurs du bebop, décident de reprendre des mélodies de comédie musicale qui elles-mêmes étaient inspirées par de la musique 100% harlémite, parce que le Cotton Club était à Harlem, et ils réécrivent des mélodies sur ces enchaînements d'accords qui ont été écrits par tous ces immigrés qui agglomèrent toutes sortes d'origines, enfin toutes sortes d'inspirations musicales différentes, et ça redevient quelque chose qui fleurit sur une branche complètement différente. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette version de Summertime, qui est quand même, je pense, le grand tube de Gershwin. C'est que on entend Joni Mitchell, on entend Wayne Shorter, on entend Herbie Hancock, qui se sont complètement réappropriés cette mélodie et la jouent d'une façon qui est quasiment irreconnaissable et pourtant qui est tellement musicale.
1968. Contrairement à mes camarades Beffa et Laurent Deville, le jeune Durand a fait des études relativement moyennes. Mais il a compensé cette inculture de base par un goût assez forcené pour le rock'n'roll et aussi pour un certain nombre de héros et d'héroïnes qui nous ont quittés très jeunes, comme Janis Joplin, quelque part dans la jungle brésilienne, avec des produits que les pharmacies classiques ne recommandent pas absolument, ce qui donne cette version déchirante, encore une fois, de Summertime.
Looking, babe, she's looking good now. Hush, baby, 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 baby. No, 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 don't you cry. Don't you cry.
Extraordinaire chat hurlant que Janis Joplin, donc accompagnée par son orchestre 68. Elle allait disparaître si jeune, j'ai vu, vous avez obtenu, vous, tous les deux, des victoires de la musique comme s'il en pleuvait, mais j'ai vu les victoires de la musique de la variété en France. Zao de Sagadan, c'est pas mal, elle a gagné, tant mieux pour elle. Le reste, c'est quand même assez, je vais pas dire effrayant, mais en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que la plupart des chanteurs qui nous ont été présentés susurrent, ce qui fait une énorme différence avec Janis Joplin qui chante. Le Philharmonique de Los Angeles, dirigé et bang par Michael Tilden Thomas, joue la seconde rhapsodie et Carol Beffa est de retour. Au début de l'émission, je vous expliquais le nombre de tubes donc écrits par Gershwin, dont fait partie cette seconde rhapsody. I buy a Stairway to Paradise, I love tourism, prélude numéro 17, A Foggy Day qu'on entendra tout à l'heure, But Not For Me, Soigny, on l'a entendu, Fascination Rhythm, pardon pour mon anglais, l'ouverture cubaine qu'on a oubliée, I Got Rhythm, le concerto enfin, un américain à Paris dont on va parler, Summertime, Porgy and Bess, Rhapsody, etc., etc. Donc je l'ai dit, Rhapsody, ça a été le grand grand succès. Après New York 24, ils commencent à rencontrer Fred et Adèle Astaire. Ils vont faire les Diligoon ensemble avec justement Fascination Rhythm qui va être un succès mondial là encore. Et en fait, après, c'est assez rare dans cette vie brève, au fond, après quelques hésitations, mais même pas vraiment d'échecs à part Porgy and Bess, tout marche, tout fonctionne, c'est-à-dire les morceaux dits classiques, inspirés du jazz, les comédies musicales, voire même les opérettes. Il y en a une qui s'appelle Son of Flame, qui n'est pas ce qu'il a fait de mieux, mais ça marche quand même. Il fait la une de Time Magazine, il achète ce fameux immeuble de 5 étages. Bref, rien ne lui échappe. Et c'est pour ça donc que nous allons écouter le Philharmonique de Los Angeles, dirigé par Michael Tilson Thomas, qui joue cette fameuse seconde rhapsodie. Nous sommes avec Carole, que voici. Carole, alors.
Alors, cette œuvre, en fait, elle était méconnue pendant très longtemps. On ne l'a découverte, redécouverte, on peut dire que il y a quelques années.
Bah, c'est la fin.
C'est la fin, c'est aussi le
livre. Et la fin est brutale, parce qu'il a des malaises, on comprend très bien ce qu'il a.
Alors, pas tout à fait, ça date de 31, il meurt en 37.
Mais il commence déjà à avoir des malaises, qui sont un peu mystérieux pour le corps médical.
Exactement, alors cette œuvre, en fait, elle est issue d'une musique de film, le film Delicious, parce qu'après avoir travaillé sur la plupart des chansons du film, sur la séquence de Melting Pot, Gershwin va commencer par esquisser une musique pour accompagner un long montage visuel où un personnage erre dans les rues de New York. Et cette musique va porter des titres successifs, Manhattan Rhapsody, New York Rhapsody, etc. Avant qu'on la connaisse comme la Second Rhapsody, évidemment en référence à la première qui, elle, est célébrissime. Alors, c'est une œuvre beaucoup plus fantasque que la première, mais où on reconnaît les déhanchements rythmiques, ce côté très chaloupé, et également peut-être plus chaleureux que la première, qui a quelque chose, malgré son optimisme contagieux, de légèrement mélancolique. Ici, nulle trace de mélancolie. Il y a un peu de tout, là encore, c'est cette espèce de melting pot, ou de ratatouille, pour reprendre ce terme, où il y a de temps en temps comme une impression de boîte à musique qui surgit, et à d'autres moments, on est effectivement dans un bar un peu enfumé. On a des cuivres stylisés parfois. Il y a tout, et je crois que c'est ce qui fait le prix de cette œuvre.
Et ce qui fait le prix donc de la carrière de George Gershwin, je vous rappelle, puisqu'on parlait donc de Bernard Herrmann, le compositeur d'Hitchcock, mais aussi de Mankiewicz, d'Orson Welles, bien évidemment, et même de Taxi Driver, que tous ces braves gens viennent, je dis braves, c'est pas du tout péjoratif, ils viennent de Russie. Poussé par le célèbre Alexandre III, qui était à la fois et antisémite, l'empereur, et en même temps qui voulait absolument russifier son pays, donc faire sortir tous les juifs qui sont partis et qui sont tous arrivés à Manhattan, qu'il s'agisse donc d'Hermann ou de Gershwin et de sa famille. Vous allez retrouver donc Laurent Deville et Carole Beffa au passage. Nous allons rendre hommage, puisque nous sommes dans Bande à part, à un couple mythique, Hardy Dutronc.
Renew, véhicule d'occasion électrique, hybride, essence ou diesel, reconditionné et certifié. Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Et en ce moment, profitez de votre véhicule Renault d'occasion avec 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour seulement 1 euro de plus. À découvrir dans le réseau Renault. Renew, véhicule d'occasion électrique, hybride, essence ou diesel, reconditionné et certifié. Voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Bonjour, c'est Avre Jerry. Je vous invite à me rejoindre à Aix-en-Provence pour son festival d'art lyrique. Au programme, deux opéras fabuleux. La Clémence de Titus de Mozart avec la merveilleuse Karine Dehé et Madame Butterfly de Puccini, dirigée par le maestro Daniele Rustioni. C'est l'occasion aussi de découvrir ensemble les joyaux de cette région de toute beauté.
Le Festival Lyrique d'Aix-en-Provence avec Evro Jerry du 20 au 23 juillet. Un séjour radio classique avec Intermed, le spécialiste du voyage culturel. Réservation au 01 40 08 50 40 ou sur intermed.com.
Les mélodies ou les thèmes mélodiques qui me bouleversent le plus, il y a forcément une dimension de mélancolie dedans.
19h, 20h.
Quand on me donne beaucoup de temps, je vis très très vite. Mais si on me donne très peu de temps, là, je risque d'être très lent.
Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Émission consacrée à George Gershwin avec Carole Beffa, donc, et Laurent Deville, deux grands musiciens qui accompagnent un petit amateur. Alors, Gershwin, évidemment, on l'a beaucoup entendu En tout cas en France, pour ceux qui l'ignoraient jusqu'à présent, dans un Américain à Paris, parce qu'il est venu très souvent, il a en plus beaucoup voyagé, c'est qu'il a vécu que 39 ans, mais il n'arrêtait pas de faire New York-Londres, Londres-Paris, retour à New York, et de passer donc de pièces classiques à des choses plus légères. Et ce God, I Got Rhythm chanté par Gene Kelly, évidemment, est dans toutes les mémoires.
Vous comprenez ça?
Non! Rhythm. I got
music.
I got
my gal. Who could ask for anything more? Who could ask for anything more?
La même chose en français.
J'ai du rythme. J'ai de la musique. J'ai ma chérie. Who could ask for anything more? J'ai des désirs. Dans green pastures, j'ai ma chérie. Who could ask for anything more? Old man Trouble, I won't find him. You won't find him hanging round my door.
Comprenez ça maintenant?
Non!
I got!
Voilà le sourire de Gene Kelly, américain à Paris, donc 51, mais ça date évidemment d'avant. Signature de George Gershwin, et ce qui caractérise cette musique américaine, c'est aussi à la fois le respect qui existait pour les grands compositeurs classiques cités par mes camarades Beffa et Laurent Deville tout à l'heure, mais en même temps une envie de s'émanciper, comme Bernard Herrmann, comme Aaron Copland, comme évidemment Leonard Bernstein, pour essayer de créer quelque chose qui soit du domaine de l'Amérique. Et maintenant, nous voici avec Phineas Newborn, qui joue Oléo en 1961. C'est inspiré, et nous fait remarquer Laurent, de I Got Rhythm. Des gens qui en ont, enfin, qui jouent vite, j'en ai connu, enfin plutôt j'en ai croisé. D'ailleurs, vous et bien évidemment Carole, mais alors là, c'est le Super Express. Là.
Ah oui, mais.
Et alors surtout maintenir sur la distance avec les trois, c'est-à-dire avec le batteur, avec le bassiste, une dextérité pareille, c'est inouï.
Ouais, c'est Oscar Peterson sur stéroïdes, quoi.
Il a malheureusement. Très peu d'ailleurs, fini à Sony.
Oui, il a quasiment fini sa vie à l'asile. Enfin, il a fait pire. Il en est sorti extrêmement diminué. Et il existe des enregistrements après son internement qui sont beaucoup moins brillants que ceux qu'on entend ici. Alors la raison pour laquelle j'ai choisi ce morceau, c'est parce que c'est donc un une mélodie, Oléo, qui a été écrite comme paraphrase de la mélodie de I Got Rhythm. Et c'est donc, comme je l'expliquais auparavant, pour nos auditrices et nos auditeurs les plus attentifs, les musiciens du bebop ont repris la structure harmonique des compositions de Broadway pour mettre des mélodies dessus. Et ça, cet enchaînement d'accords, ça s'appelle les rhythm changes. En français, ça s'appelle les anatoles. Bon, ce sera sans doute l'objet d'une autre émission pour expliquer cette étymologie étrange, mais c'est pour souligner le fait que I Got Rhythm a une série d'accords qui était tellement agréable, astucieuse et inspirante à jouer que c'est devenu les...
était un très bon pianiste.
Hein. Ah ouais. Et c'est devenu les I Got Rhythm Changes. Donc les Rhythm Changes. Et c'est devenu, avec le blues, une des deux formes, je dirais, valises, du répertoire de jazz que n'importe quel musicien de jazz amateur se doit de maîtriser.
Ben, Summertime, c'est une gamme pentatonique, hein. C'est une gamme de blues.
Absolument. Mais après, pour improviser, c'est autre chose. On est dans le cas de Summertime, dans un espace modal qui a été bien torturé par Herbie Hancock il y a quelques minutes. Justement, c'était aussi une des raisons pour lesquelles j'avais choisi cette piste, c'est parce que Herbie, il va chercher en dehors de la zone de confort de cette mélodie. Et là, cette pièce de Phineas Newborn met en évidence combien, eh bien, le travail de Gershwin rebondissait contre tous les murs de l'époque et donnait 40 ans après ce qu'on vient d'entendre.
Voilà, à mon avis, il ne devait pas carburer qu'à la vitelle, Phineas Newborn, avant d'entrer dans malheureusement cet asile qu'il a vu sortir diminuer. L'un qui fut justement un grand consommateur de tout et de n'importe quoi, qui a énormément souffert, mais qui est toujours là. C'est évidemment le leader des Beach Boys, qui, après une carrière de chanteur de surf, a emmené les Beach Boys à la remorque des Beatles, quand je dis à la remorque, d'ailleurs, en même temps que les Beatles, vers la complexité de la pop. Et puis, en 2010, il a voulu faire un album où il réimaginait Gershwin, et donc il s'est approprié I Got Rhythm pour faire donc du Brian Wilson.
Je voulais que les gens apprécient George et Ira. Alors nous avons pris chaque chanson, notamment I Love You Porgy, pour les proposer comme George aurait voulu qu'elles soient. J'y entends mon harmonie, toutes sortes de choses. Il est dans le rock and roll, vous savez. George Gershwin était dans le rock and roll. Tenez, Rhapsody in Blue. Vous vous souvenez? C'est du rock and roll.
Voici donc la version qu'il donne de I Got Rhythm. Les harmonies vocales de Brian Wilson, donc célèbre dans le monde entier, qui sont nés sur la côte californienne, les plages, Malibu. Jean-Yves Thibaudet est un grand pianiste français que vous connaissez très bien l'un et l'autre, grand spécialiste de Gershwin. D'ailleurs, Jean-Yves vit du côté de Los Angeles et le voici dans le concerto pour piano en fa majeur avec le National Youth Orchestra. Nous sommes en 2018. Thank you. Alors n'hésitez pas à vous procurer tous les enregistrements de Jean-Yves Thibaudet dans Gershwin, car il est peut-être, lui, le français de Los Angeles, le meilleur interprète de Gershwin, en tout cas l'un des meilleurs. Il était là avec le National Youth Orchestra, nous sommes en 2018. Et Jean-Yves vient souvent, évidemment, en France pour donner des concerts. Carole, lui, joue au piano Street Art. C'est une improvisation, car Carole est notre improvisateur maison, sur une rencontre qu'il a évidemment imaginée entre George Gershwin et Steve Reich. C'est un album qui s'appelle Noir et Blanc. Nous sommes en 2018 et voici le jeune BFA. Laisser aller dans le bon sens du terme, mon cher Carole.
Ah ben j'espère. Alors, une toute petite précision, c'est pas moi qui ai imaginé cette rencontre, plus exactement. Je l'ai conçue d'après une suggestion qui est celle de l'ingénieur du son qui, lors de l'enregistrement, depuis sa cabine, m'a dit, voilà, je veux une rencontre entre Gershwin et Steve Reich. Il y a peut-être un petit peu plus de Reich.
Mais voir, on vous demande n'importe quoi.
J'ai toujours été un enfant sage.
Ouais.
Non, c'est faux d'ailleurs. Donc il y a peut-être un peu plus de Reich que de Gershwin. Mais ces couleurs un peu kaléidoscopiques qu'on trouve chez l'un et chez l'autre.
Et qui vous plaisent.
Et qui me plaisent, ouais.
Tout à l'heure, alors, évidemment, il y a une grande absente, hein, Laurent, dont on n'a pas parlé, c'est quand même Ella Fitzgerald qui a chanté magnifiquement Gershwin tout au long de sa carrière.
Ouais, je pensais que c'est vous qui allez l'amener, Guillaume.
Mais non, parce qu'on a choisi d'autres chanteuses pour arriver à une chanteuse que vous adorez, qui est Nina Simone. Donc nous allons récapituler. Tout à l'heure, donc, nous écoutions avec Herbie Hancock Johnny Mitchell, que voici. Donc, jouer Gershwin, ou plutôt chanter Gershwin. Puis nous avons enchaîné sur Janis Joplin, c'est encore Gershwin. Et nous arrivons au troisième, au troisième monstre. Ce sont donc des femmes exceptionnelles. Nina Simone qui chante I Love You Porgy, extrait de Porgy and Bess. C'est un enregistrement qui date de 1958. Si vous regardez sur Internet et vous trouvez notamment un concert à Montreux de Nina Simone qui attend, qui parle de son goût pour David Bowie et puis qui dit en faisant attendre le public I am a star. Alors les gens font un peu de bruit, par exemple, s'asseoir dans, si ma mémoire est bonne, dans le hall Stravinsky. Et elle leur dit I can wear I am a star. I am a star. Elle a l'air quand même gentiment perchée. C'est une chanteuse et une pianiste exceptionnelle, pianiste tranquille, mais c'est tout fait en faux.
I love you, Porgy, don't let him take me. Don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I wanna stay.
with you forever, and I'll be glad. Yes, I love you, Pogi. Don't let him take me. Don't let him handle me with his hot hands. If you can keep me, I want to stay here with you forever. I've got my man. Let him handle me and drive me mad. If you can keep me.
Je ne sais pas si on peut faire mieux que Nina Simone dans la tranquillité, dans cette manière tragique depuis Billie Holiday justement l'interpréter, les chansons les plus complexes, les plus simples aussi, comme par exemple Philippe, puisqu'on parlait tout à l'heure de ce concert de Montreux, dont vous avez vu comme moi la vidéo qui est absolument inouïe, puisqu'elle joue à la fois fou, elle chante pas très bien, sauf qu'elle chante tellement bien et qu'elle joue tellement bien quand même que ça elle finit par se rattraper, tout ça parce qu'au départ elle supporte pas le public qui bouge.
Exactement, qu'elle terrorise littéralement, les forçant à s'asseoir.
Rien de ça.
Non, là, c'est une. Elle ne l'était pas encore star lorsqu'elle enregistre cette chanson. C'est marrant parce qu'il y a toute une polémique sur le petit S de I Loves You, Porgy, qui est censé être de l'Africain américain qui parle anglais et qui fait des fautes de grammaire, parce que bien entendu, c'est I Love You, Porgy. Et beaucoup d'interprètes noirs après ont carrément opérer l'ablation de ce S qui, à leur avis, les renvoyait à une image d'ignorance du peuple noir qui leur était insupportable. Et Nina Simone, qui était très en pointe sur le sujet, elle a été associée au Black Panther, et elle a payé très cher son activisme politique, va quand même chercher dans ce répertoire d'un compositeur blanc, qui est George Gershwin, que Duke Ellington a accusé de dresser un portrait tout à fait infantilisant des Noirs américains, eh bien, elle va chercher cette mélodie et se l'approprier avec une justesse, moi, que je trouve confondante. C'est ça que j'adore, c'est quand le dogmatisme militant cède devant tout simplement l'évidence musicale.
Seiji Ozawa, malheureusement, nous a quittés il y a quelques jours. Il dirige la Gershwin Night avec le Philharmonique de Berlin et le Marcus Robert Trio. Hommage rendu à ce grand chef d'orchestre qui a joué dans tous les genres absolus, donc de la musique classique, plus moderne, et qui nous a quittés donc il y a quelques jours. Si vous voulez comprendre le charme de notre ami George, vous tombez sur le charme de son ami Fred, qui dans le film Une demoiselle en détresse, déjà le titre assez fleur justement, un mélange entre la poésie et le très légèrement cucu, mais alors évidemment, A Foggy Day, c'est quelque chose.
I was a stranger in the city, out of town were the people I knew. I had that feeling of self-pity. What to do, what to do, what to do? The outlook was decidedly blue. But as I walked through the foggy streets alone, it turned out to be the luckiest day I've known. A foggy day in London town had me low and had me down. I viewed the morning with alarm. The British Museum had lost its charm. How long, I wondered, could this thing last? But the age of miracles hadn't passed, for suddenly...
Voilà, quand on est adolescent, parfois on déteste que ce qui vous a précédé. Je me souviens, pardonnez-moi d'être personnel, qu'au contraire, moi, Fred Astaire, c'était absolument tout ce que je vénérais avant le rock'n'roll, à savoir l'élégance, la danse, l'exigence, les performances physiques extraordinaires, une sorte de domination de son propre physique, et évidemment ses costumes inouïs et cette envie de se promener donc par un Foggy Day dans les London Town, c'étant une demoiselle en détresse. Alors Gershwin maintenant, les garçons, donc Laurent Deville des Carole Beffa, est-ce qu'on peut le mettre, enfin, est-ce que c'est un personnage à part, ou est-ce qu'il est comme par exemple le groupe des 5, ou alors la musique russe, enfin, est-ce qu'il est, il est rangeable quelque part dans l'histoire de la musique? On va commencer par le jazzman.
Bah, déjà, il existe.
Ce qui est une bonne chose.
Voilà, je pense que c'est, il a vraiment concrétisé ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire cette myriade d'influences très diverses qui se solidifie dans un répertoire qui après ça devient autre chose. Donc oui, bien sûr, on ne peut le classer nulle part, parce que il est un des premiers à
avoir... C'est un peu ce que lui disait Ravel, quoi. C'est pas la peine d'essayer de m'imiter, devenez vous-même, vous serez le premier.
Exactement, exactement. Et il fut l'un des premiers, et en tout cas le plus brillant et le plus connu, à offrir à la musique un répertoire
et à l'Amérique.
Et oui, et qui était plein de promesses, c'est ça. Et toutes ces promesses continuent d'être tenues, ce qui est quand même magnifique.
Carole, ouais. Une petite conclusion.
Je pense que
et
c'est...
après, un soupçon de mauvais goût.
C'est le type même du compositeur melting pot, c'est-à-dire c'est un creuset d'influence. Et parfois, vous avez cette vieille querelle pour savoir si Bernstein ou Gershwin sont les compositeurs les plus importants de... aux États-Unis au XXe siècle, les deux étant à la frontière de la musique savante et populaire avec tous les guillemets d'usage. Je pense que, quoi qu'il en soit, Gershwin va bâtir les fondations et l'architecture va être ensuite consolidée par Bernstein, avec Maestria bien sûr, mais il fallait qu'il y ait quelqu'un qui réussisse cette synthèse extraordinaire qui a été effectivement celle des années 20 et 30. Et ce quelqu'un s'appelle Gershwin.
Voilà, il faut toujours une part de mauvais goût dans le bon goût. Alors Gershwin, on le disait au départ, maison d'édition, il joue dans les cinémas, il se promène un peu partout avant de composer. Il a donné ce qui a fait, au fond, la grande musique américaine, mais aussi le showbiz américain. Cette idée, avec Sinatra et d'autres, d'être à peu près sur toutes les scènes possibles, la composition, l'interprétation, en concert, des choses sérieuses, des choses qu'ils sont moins, jouer avec Basie, mais aussi jouer avec ses copains à Las Vegas. Eh bien, le grand exemple qui nous est donné ces derniers temps, qui n'a pas forcément une qualité musicale exceptionnelle, c'est évidemment Taylor Swift, qui est en train de faire trembler le PIB américain, avec une tournée qui dépasse le milliard de dollars, et qui même même, d'après ce qu'on lit dans le New York Times, est peut-être en train de faire trembler la campagne électorale américaine, car elle a l'intention de tout arrêter en dehors de chatouiller son joueur de football américain. Elle a l'intention de s'engager à fond dans la campagne entre Trump et Joe Biden ou Kamala Harris, car on ne sait pas si Joe Biden va pouvoir aller jusqu'au bout à cause de ses problèmes de santé. Bah, elle, pour des raisons qui m'échappent totalement, elle écrase l'Amérique, la petite Taylor, qui par ailleurs est très grande. Voilà, nous allons parler Gershwin et nous sommes amusés avec Taylor Swift, Shake It Off, ça date de 2014, de record absolu des tournées, et effectivement cette envie de Taylor Swift, la grande blonde qui est passée donc du folk à la pop, a l'envie de faire exploser, elle va essayer en tout cas la présidentielle américaine qui s'annonce, qui est quand même très particulière, dans le contexte d'affrontement, puisqu'on a vu, et vous avez vu à la télévision, la dernière interview de Vladimir Poutine avec le célèbre Tucker Carlson dont personne n'avait entendu parler, mais je dois dire que la menace rôde. Les garçons, j'étais tellement content de passer ce dimanche après-midi avec vous sur nos canapés installés Radio Classique pour rendre hommage à George Gershwin et à cette trompette qui est une clarinette, car je me suis fait baffer par Carole Beffa au début, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte et qui va bientôt arriver.